devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes, du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, dans cette émission du mercredi 26 mars 2025, dans notre émission, nous traitons des violences d'État. Et cela autour de trois dates de mobilisation qui ont eu lieu la semaine dernière. Tout d'abord, avec un reportage réalisé lors du samedi 15 mars, marche contre les violences, les crimes et le racisme d'État, qui avait lieu sur Paris à l'appel du réseau Entraide, Vérité et Justice. Ensuite, nous reviendrons sur l'expulsion de la Gaîté Lyrique qui a eu lieu le 18 mars. Qui a suivi cette mobilisation. Et enfin, nous continuerons d'aborder la question de la lutte des mineurs isolés et des violences d'État à travers des reportages qui, eux, ont été réalisés le samedi 22 mars dernier lors de la manifestation contre le racisme et le fascisme. On vous laisse écouter le premier reportage qui date du samedi 15 mars dernier et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Alors voilà, on est à la manifestation contre les crimes d'État, racistes et fascistes hein, cette année.
C'est une manifestation annuelle qui est depuis une quinzaine d'années, un peu partout dans le monde. Hein, c'est l'origine contre la brutalité policière en général. Et là en France, c'est dans plusieurs villes de France, ça dépend un petit peu des motivations. Là, je crois qu'il y a 5 ou 6 villes qu'on fait vraiment fait des rassemblements costauds. Là à Paris, on fait ça le 15 mars. Donc c'est le réseau d'entraide Vérité et Justice. Moi, je fais partie de Désarmons-les qui fait partie de ce réseau. Et c'est vrai qu'on est là pour faire un petit peu de bruit et pour rappeler que les crimes d'État, la violence d'État, elle est permanente. Et que la justice, elle joue un petit peu un rôle. Elle est complice, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On le sait tous.
Alors justement, il y a eu pas mal de rendus de justice là, ces derniers temps, à la fois rendus par l'Europe. Le point parce qu'il y a eu à la fois l'affaire Adama, Clodo et puis le frère d'Aurélie Garon.
Oui alors c'est différents niveaux parce que des fois l'enquête est encore en cours, on sait même pas s'il y a un procès. Dans l'affaire de Claude Jean-Pierre c'est un peu ça. C'est qu'apparemment il y a les gendarmes qui sont renvoyés, c'est ça? Alors que depuis le début, les gendarmes là-bas en Guadeloupe, ils ont dit qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Les enquêtes durent des années et des années. Pour avoir des éléments de preuve, soit c'est les flics qui les ont, parce que c'est les caméras qui portent sur eux, soit c'est des gens qui fournissent les pièces à la justice et pas directement aux familles. Donc pour que ces éléments-là se retrouvent dans les dossiers, c'est déjà une chose. Et pour que les familles puissent s'en saisir, c'est aussi une chose, parce que les juges d'instruction, ils jouent pas vraiment le rôle. C'est-à-dire que généralement, toutes les pièces du dossier sont fournies à la famille. Et c'est là-dessus on peut travailler. Donc des fois, on apprend ça des années plus tard, quoi. Donc, et puis c'est souvent trop tard pour s'organiser, pour travailler sur les pièces. Donc là, s'il y a des éléments factuelles comme des vidéos qui paraissent 5 ans après, ben franchement on se demande qui fait le travail quoi.
Ouais. Donc ça, qui les a gardés sous le coude.
Voilà. Après ça c'est une chose parce que après il faut qu'il y ait un procès. Généralement les procès, ben voilà, on sait tous que ça se passe, comment ça se passe. Et après une fois qu'il y a le procès, qu'il y a donc l'appel, où les policiers sont généralement relaxés, il y a l'appel, il y a la cassation, ça dure 2-3 ans de plus. Et après, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est non contraignant. On sait que généralement, c'est les petites fessées que la France se prend pour ne pas avoir respecté tel ou tel article de la loi de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais généralement, bon, voilà, c'est des compensations financières, c'est une reconnaissance, mais qui arrive des fois 10 ans, 15 ans plus tard. Donc voilà, bon, on est tous sujets à tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'entraider, il faut faire en sorte que la vérité éclate.
Oui, bah, c'est un peu ce que dit Aurélie Garand. C'est que de toute manière, on sait ce que c'est que la justice en France, surtout quand ça concerne des crimes ou des violences policières. Mais ça, on le sait. Mais là, le combat politique, il continue pour autant et peut-être même avec plus de liberté finalement.
Ben, c'est là qu'on a commencé. Ça fait quelques années qu'on met en avant plutôt la vérité que la justice. Même si le comité, quand il se crée, c'est toujours vérité et justice. Mais généralement, la vérité, on l'a assez vite. Hein. Les éléments de témoignage, même qui ne sont pas forcément dans les procédures judiciaires, les éléments d'image, les vidéos, etc., on les a depuis le début. Et donc la vérité, on peut se le faire tout de suite, sans forcément qu'on attende que les juges se saisissent et se prononcent.
Les familles du réseau, si vous pouvez vous mettre devant pour la banderole, merci.
C'est important que les gilets jaunes soient là aujourd'hui pour rappeler les violences policières qu'ils ont subies. Les mains arrachées.
Exactement. Alors, on a 33 éborgnés, 6 membres arrachés, donc mains et pieds. Parce qu'au départ, on ne savait pas que c'était des bombes qui explosaient pas en deux temps. Donc, les gens les ont ramassées. Vous pensez bien qu'à la troisième main arrachée, on a compris. Donc, personne ne les a pris. Par contre, entre-temps, il y a eu 3 pieds arrachés parce que pour la bonne raison, que ça tombe sous nos pieds. Donc les gens, ils n'ont pas fait gaffe, ils ont chuté dedans. Ils ont, vous savez, ils ont poussé ça du pied. Il y a eu 25 000 blessés graves, dont 5 000 graves, traumatisme crânien, mâchoire arrachée, poitrine tumifiée. Il y a des femmes qui ont perdu un sein, il y a des hommes qui ont perdu une couille, parce qu'il y a eu aussi des couilles tumifiées. Il y a eu des cuisses comme ça, dans cet état-là. Voilà.
C'est des bouts de grenade dans le ferraille
voilà.
Qui rentraient dans les chairs.
Voilà. Sur les violences, je voulais être là aujourd'hui. Parce que comme je l'ai marqué, on a marqué, hein, ni oubli, ni pardon. Hein. Voilà, rendez-vous devant la CPI. Nous, nos camarades, il faut savoir qu'il y a des camarades qui sont encore en rééducation, d'accord ? Parce que quand vous avez 27 points de suture à la tête, vous pensez bien, c'est pire que des séquelles. Vous avez aussi des camarades bah, qui ne mangent toujours pas correctement parce que c'est une plaque qu'ils ont à la place des mâchoires et ils ne peuvent pas avoir les soins parce que c'est les soins dentaires, tout le monde le sait, c'est un tarif, mais eux ne sont pas reconnus comme victimes de manifestants, de manifestations. Donc résultat, bah, ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont rien et c'est à eux de payer leurs soins. C'est la plupart des travailleurs pauvres, donc ils n'ont pas les moyens. Donc il faut savoir que voilà, il y a des gens qui ont perdu 8 dents, bah, ils n'ont jamais pu les remplacer. Pire, quand il s'est retrouvé au tribunal avec la photo, avec toutes les preuves, qu'en plus de ça, il y a eu des images parce qu'il était dans une manif où c'était la fin de la manif, un peu comme le camarade qui s'est reçu l'œil.
Et
voilà, qui s'est fait à Place d'Italie, qui s'est fait éborgner, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de manif, il n'y avait rien. Ben là, pareil, ce jeune homme, donc il avait toutes les preuves hein, que c'était un tir délibéré, ben, il n'a pas eu gain de cause. Donc il n'a pas eu le droit à avoir des dents, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Le 22, il y en aura une spéciale des Gilets jaunes, c'est eux-mêmes qui vont la déclarer, donc samedi prochain. Mais je serai toujours là où on doit dénoncer. Voilà, mais moi pour moi, ce sont plus que mes frères d'armes. Hein. Ce sont nos martyrs. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ce sont des martyrs. Hein. Pour avoir mis un gilet jaune sur le dos. Et alors, on a justifié ça. On a justifié ça parce qu'il y avait une poubelle ou une vitrine qui casse. Qui veut dire pour une poubelle qui casse ou une vitrine, une poubelle qui crame ou une vitrine qui casse, ça justifiait qu'on perde un œil. Qui veut dire qu'une partie de la population, et je dis bien une partie de la population, a osé mettre sur le même pied d'égalité un œil et une poubelle. Voilà aujourd'hui on en est. Et moi je leur dis, si vous en avez marre qu'on vous traite comme ils disent de la merde, bah déjà, ayez un autre regard, parce que vu que vous nous mettez sur le même niveau qu'une poubelle, ne vous plaignez pas qu'on vous traite comme de la merde. Comment on peut justifier de perdre une main, de perdre un œil, d'avoir la mâchoire arrachée, d'avoir une poitrine tumifiée parce que la poubelle, elle a cramé? Mais comment on est arrivé? On a basculé. Et c'est la réalité. On a basculé dans un monde où le matérialisme est un plus important que l'humain. Et moi, je serai toujours du côté de l'humain. Toujours. Souvent, avec mes origines, moi, je suis née en France, de parents avec des origines. J'ai même l'étiquette, si on peut dire, petite fille d'Arquie. Et souvent, on me dit, t'as vu, dernièrement surtout, hein, t'as vu avec le conflit, l'Algérie et tout, tu vas te positionner comment? Même avec le conflit Palestine, Israël et tous les conflits. Je leur ai toujours dit, moi, je serai toujours du camp de la victime et de l'oppressé. Je serai toujours du camp des victimes et des oppressés. Je serai jamais du camp des oppresseurs. Jamais. Qu'importe le pays ou la communauté ou la religion, moi, tout ça, je la laisse aux hommes de peu de foi et de peu de bonne volonté. Parce que normalement, quand on est humaine, on regarde toujours le côté humain.
Bon, ben ça se met. Il reste une banderole à porter sur le côté droit du cortège de tête.
Le réseau d'entraide Vérité et Justice appelle à marcher le 15 mars 2025 avec les familles de victimes et les survivants survivantes des violences policières.
On est avec Samia et on va parler un peu du collectif SAVE, S-A-V-E. Alors est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que ce collectif? Depuis combien de temps vous existez?
Alors, l'association SAVE, elle a été créée par mon frère et moi à la suite du décès de mon neveu qui est mort le 4 août 2021 à Marseille à la suite d'un refus d'obtempérer. Notre collectif s'appelle Vérité pour Swail et on a créé l'association SAVE qui est Stop aux violences d'État, qui a pour but de porter des projets de sensibilisation. Et les projets qu'on porte s'appellent 435-1 m'a tué. C'est un projet de sensibilisation autour de l'article de loi qui a été mis en place en 2017 et qui a sorti du régime de légitime défense classique les policiers, leur permettant de pouvoir tirer sous certaines conditions. Et la problématique de cet article de loi, c'est qu'en fait, elle permet à un policier, si un chauffeur, un conducteur d'obtempère pas, de pouvoir tirer s'il pense que lors de sa fuite, il serait susceptible d'être un danger pour autrui après. Et ce flou crée en fait des tirs à répétition, à bout portant, comme c'est le cas de Naël, comme c'est le cas de mon neveu et comme c'est le cas d'une quarantaine de personnes depuis cette loi.
D'ailleurs, cette loi, elle a fait exploser le nombre de décès suite aux violences de la police. Cette année, l'année 2024, a été un record de violences policières, d'assassinats.
Oui. En fait, depuis 2017, on est à plus de 134 morts par balle dans le cadre de l'article 435-1. Et donc, pour la question des refus d'obtempérer par la police, on a dépassé les 35 morts. Et effectivement, la dernière année, l'année 2024, a été une année mortifère puisqu'il y a eu 55 décès de tirs létals, tout confondu, donc police et gendarmerie.
En plus, c'est une loi qui est quand même très particulière puisqu'elle suppute ce que pourrait faire dans le futur cette personne qui est au volant.
Tout à
c'est
fait.
Complètement
tout à fait.
Ça laisse un pouvoir exorbitant à la police d'interprétation.
Exactement, parce que dans le cadre de la légitime défense telle que c'était avant, ils pouvaient bien entendu réagir et se défendre avec leurs armes à condition qu'il y ait nécessité et stricte proportionnalité. C'est ce qu'est le cadre de la légitime défense de tout un chacun. Mais ils ont rajouté en fait le mot « susceptible de » et donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'obtempère pas, et si en fait ils pensent, eux, que peut-être après il peut être un danger, et donc c'est un fourre-tout qui est un bouclier qui leur permet de tirer dès qu'ils le souhaitent dans un contexte de refus d'obtempérer. Et donc, systématiquement, ces refus d'obtempérer sont faits sur des personnes racisées, noires, blancs, gitans. Dans 90% des cas, il s'agit d'hommes racisés qui sont tués. Il y a eu quelques femmes, mais c'était ce qu'ils appellent des dommages collatéraux, c'est-à-dire des balles prises parce que c'était des passagères.
Donc ce que vous demandez, c'est évidemment la suppression de cette loi.
L'abrogation de l'article 435-1. Et le projet SAVE, que porte SAVE 435-1 Mathieu, est un projet de sensibilisation pour informer les gens de ce qu'est cet article de loi. Et il y a tout un travail de réflexion avec des chercheurs du CNRS, des juges, des procureurs, etc. sur la réflexion, faut-il abroger la loi ? Faut-il la réécrire ? Et c'est tout ce qu'on est en train de travailler sur cette année.
Tu dis, il y a plein de gens qui vous accompagnent
tout à fait.
Dans cette critique.
Tout
pour
à fait.
La, pour
le projet est porté par Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme. Il y a des chercheurs du CNRS, il y a des professeurs de droit tels qu'Olivier Kahn, tels que il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des syndicats d'avocats qui nous aident dans tout ça. Vous pouvez suivre un petit peu ce qu'on fait, vu qu'on vient de créer les réseaux sociaux. Et donc, il y a sur Instagram, vous pouvez retrouver SAVE, donc Stop aux violences d'État, qui vous renverra vers le site où vous allez avoir toute l'actualité parce qu'on fait beaucoup de choses. On va être présent au mois d'avril au tribunal populaire des violences policières à Londres. On va aller à Genève puisqu'on a fait une note au comité de torture. Et en fait, on va être présent le 15 avril à l'ONU pour défendre le cas de la France et se faire aider. Donc il y a vraiment beaucoup d'actu, il faut nous suivre et nous donner de la force.
À la fois vous dénoncez cet article-là.
Et on sensibilise, on informe sur les droits de tout un chacun, qu'il s'agisse de droits en cas de contrôle, un droit lorsqu'on se fait manifester, puis on est un soutien pour les familles qui ont besoin.
C'est ça, parce qu'il y a à la fois le cas extrême où la police tue,
tout à fait.
Et mutile,
oui.
Et puis il y a aussi le droit de manifester,
tout à fait.
Nos droits pendant la garde à vue, c'est-à-dire toute cette violence aussi quotidienne que
l'idée,
on peut
c'est
subir.
Vraiment d'apporter une pédagogie à tout un chacun et de sortir des idées toutes faites ou de ce qu'on a pu entendre. Lorsqu'on est face à un policier, il faut connaître ses droits, il faut savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. On a des droits comme eux en ont et il faut bien les connaître.
Ouais, mais bon, ils s'assoient souvent dessus quand même.
En 2010, plusieurs comités Vérité et Justice se rassemblent et créent le collectif Vivolé afin de rompre l'isolement face aux violences et de porter leur lutte. Répondant à l'appel lancé par le collectif opposé à la brutalité policière de Montréal pour faire du 15 mars la journée internationale contre la brutalité policière, le collectif Vivolé et d'autres comités de victimes à Paris, ainsi que le collectif contre les abus policiers à Bordeaux, organisent la marche contre les violences policières du 15 mars 2011. Depuis lors, cette date est le rendez-vous annuel des familles de victimes et des survivants, survivantes de violences policières, pénitentiaires et psychiatriques en France. Ces dernières années, le nombre de blessés et mutilés par les armes de la police et de la gendarmerie, matraques, tasers, flashballs, lanceurs de balles de défense, grenades, a aussi augmenté. Ces armes, d'abord expérimentées dans les quartiers populaires dans les années 90, font aujourd'hui de plus en plus de victimes lors des manifestations ou des rassemblements festifs, accompagnées d'une criminalisation de toute protestation. En 2014, après la mort de Rémi Fraisse, plusieurs blessés créent l'Assemblée des blessés. La répression s'est ensuite intensifiée, d'abord lors des manifestations contre la loi travail en 2016, puis pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Le collectif des mutilés pour l'exemple est né à la suite de cette répression. Depuis 2007, le réseau des associations, comités et collectifs s'organise au fil des luttes, des procès, des rencontres, des victimes et des proches de victimes. Le réseau d'entraide Vérité et Justice se constitue en tant que tel en 2021. Aujourd'hui, il appelle à manifester ensemble partout en France, de l'Hexagone à La Réunion. Ce réseau rassemble de nombreuses familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, des familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées, ainsi que des personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre. Il appelle à lutter ensemble contre les violences policières, militaires et psychiatriques. L'impunité policière et la complicité de la justice sont le prolongement de ces violences. D'après le journal Basta, 213 interventions policières létales recensées de 1977 à 2020. Parmi ces 213 affaires, 39% ont été classées sans suite et 28% se sont soldées par un non-lieu. De plus, parmi les 32 éborgnements, 6 mutilations de mains et un pied survenus pendant les Gilets jaunes, un seul procès a eu lieu sans qu'aucune condamnation n'ait été prononcée contre le policier ou le gendarme responsable des tirs. Depuis des années, les victimes et les familles de victimes dénoncent la lenteur judiciaire et l'impunité policière, avec l'évitement de l'enquête, le faux et usage de faux en écriture publique, le refus d'accès aux preuves et leur falsification et destruction, le refus d'entendre les témoins, la criminalisation des victimes vivantes et mortes, les intimidations, la difficulté d'obtenir systématiquement une reconstitution réelle des faits sur les lieux du crime, létal ou non. Depuis des années, nous dénonçons cette impunité punitière. Nous dénonçons un système déterminé à nous habituer aux violences, aux crimes et au racisme d'État, à les justifier et à les banaliser, et à faire accepter l'idée que le port d'un uniforme autorise à être armé, à torturer, à blesser, à mutiler, violer et à tuer. Comme en 1983, lors de la marche pour l'égalité, comme en 1996, lors de la mobilisation de l'église Saint-Bernard à Paris par les personnes qui n'avaient pas les papiers français, comme à la suite des révoltes de 2005, du mouvement des Gilets jaunes en 2018, des révoltes de 2020 et de 2023, construisons ensemble cette solidarité contre l'injustice et l'impunité en exigeant vérité, justice et réparation pour toutes les victimes d'hier à aujourd'hui, des meurtres néocoloniaux, des brutalités policières, militaires, des violences aux frontières, de l'enfermement, des violences administratives et judiciaires. N'oublions pas que la solidarité, le soutien aux victimes, les mobilisations contre l'injustice et l'impunité sont des rapports de force à maintenir et à renforcer. Ce premier trimestre 2025, ça annonce plein d'espoir dans une condamnation de la France par les procès à venir. Comme le 27 février 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation du droit à la vie concernant la mort de Rémi Fraisse. L'acharnement de sa famille à obtenir justice et réparation a permis d'aller au-delà de ce non-lieu de la juridiction française pour faire condamner la France. Le gendarme tireur de la grenade avait bénéficié alors d'un non-lieu confirmé par la Cour de cassation en 2021. L'État français est régulièrement condamné, tant par la CEDH que par l'ONU, pour violation de droits humains, du droit à la vie, pour torture, traitement inhumain et dégradant. Et pour autant, il continue à orchestrer ses violences et crimes en militarisant son État policier que l'appareil judiciaire décore d'impunité et de déni de justice par des non-lieux, des classements sans suite, des acquittements, des sursis et tant d'autres violences judiciaires. Comme le 4 mars dernier, le parquet a requis un procès aux assises pour le meurtre à l'encontre du policier qui a tué Naël Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023 à Nanterre. Le meurtre de Naël fait écho, deux semaines plus tôt, le 14 juin 2023, à celui d'Aloussein Kamara, 19 ans, à Angoulême. Le policier auteur du tir est mis en examen pour homicide volontaire. Mais à quand le procès? À quand les procès? Toute vie est une vie, ni oubli, ni pardon. Nous disons stop aux violations des droits humains, à l'impunité et au déni de justice. Stop aux violences et crimes d'État. Stop aux morts et aux mortes aux frontières, sur les routes, en Méditerranée, dans les CRA, en enfermement psychiatrique, en prison, par la police, par la gendarmerie. Stop aux discriminations, au racisme systémique, au racisme des politiques migratoires, au fascisme, à la xénophobie, à la négrophobie, à l'islamophobie, à l'antiziganisme. Stop au génocide, au massacre, au nettoyage ethnique, à l'esclavagisme moderne. Stop au néocolonialisme, à l'impérialisme, au capitalisme, au pillage et à la militarisation. Nous disons stop à l'ingérence colonialiste, au nazisme et au discours fascisant et raciste des politiques, aux violences patriarcales, LGBT-phobes et notamment à la transphobie. Solidarité et soutien aux survivantes, aux survivants, aux familles endeuillées, aux familles des disparus forcés et des portés disparus. Solidarité et soutien aux personnes exilées et migrantes, aux personnes avec ou sans papiers français, aux mineurs et mineures étrangers, étrangers et étrangères non accompagnés, aux collectifs des jeunes du parc Belleville.
aux personnes sans hébergement, sans logement, aux personnes précaires. Régularisation pour toutes et tous. Solidarité et soutien aux mères protectrices et à toutes les victimes. Solidarité et soutien aux révoltés du monde entier. Solidarité et soutien aux peuples opprimés à travers le monde. La solidarité est notre arme. Organisons-nous et renforçons-la au-delà des frontières. Migrer est un droit. On n'oublie pas, on pardonne pas. Pas de fachos dans les quartiers. Pas de quartier pour les fachos. Pas de justice. Pas de justice. J'ai rien préparé, moi je suis là rien que pour vous dire qu'on est, on est là contre toutes ces bavures. Je vois pas pourquoi ici, je me répète, mais il faut que tous ces policiers qui sont pas compétents dégagent de la police, tout simplement, ils dégagent. Et voilà, on veut des policiers compétents qui connaissent leur métier. Il faut pas tuer, il faut pas tuer, on tue pas, voilà.
La famille de Naël. Bonjour à tous, je suis la cousine de Naël. Aujourd'hui, je suis présente ici avec ma mère et Fatia et toutes les autres familles de victimes pour que les noms de nos morts ne soient pas oubliés, pour que Naël ne soit pas oublié, pour parler de lui, de ce jeune ado qui nous a été arraché dans la fleur de l'âge, qui n'avait encore rien vécu. On lui a enlevé sa jeunesse, son avenir, à lui qui était plein de projets. Le 4 mars dernier, le procureur a requalifié les faits de meurtre. Avec cette annonce, ma famille a été soulagée et apaisée. Mais nous restons sur la réserve. Nous attendons ce que la juge va dire. Avec cette décision, vous avez sûrement dû voir, les syndicats de police ont exprimé leur mécontentement et ont fait des manifestations devant plusieurs commissariats de France. Je trouve ça honteux et irrespectueux pour notre famille. Quel message ça envoie? Laissez nos collègues tuer en toute impunité. Il y en a même un qui a osé dire « Nous sommes tous Florian ». Non, nous ne sommes pas tous Florian, nous sommes tous Naël, ce petit ado arraché à sa maman si brutalement. Nous ne soutenons pas les meurtriers. Avec ma famille, nous ne lâcherons rien. Merci à tous pour la force et pour le soutien au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Justice pour Naël et pour tous les autres morts entre les mains de la police, avant et après Naël. Wanis, Sullivan, Aloussen, Kylian, notamment 6 mois après Naël. Justice pour tous nos frangins, justice pour Naël. Une autre famille qui voudrait s'exprimer.
Je suis la maman de Kylian qui a été tuée à Montfermeil de 12 coups de taser. Albert Einstein écrivait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. » Parfois, on peut se sentir dépassé par une situation sans comprendre comment les choses ont pu prendre une telle tournure. On se sent impuissant face aux versions que les autres, que ces policiers interprètent à leur propre regard des événements de l'histoire, qui pourtant est la nôtre. Nous ressentons absolument toute cette injustice. On a la sensation de ne pas pouvoir contrôler et de perdre pied sans avoir la possibilité de rattraper quoi que ce soit et de reprendre le cours normal des choses. Nous sommes mamans, nous sommes là. Notre douleur est celle des autres mères, des autres familles. Nous n'avons pas à devoir prendre sur nos épaules ce qui ne nous appartient pas. Ils ont tué et doivent être jugés et condamnés. Nous n'allons pas nous flageller du comportement des policiers qui, parce qu'ils pensent qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique, peuvent dépendre de la vie de nos enfants, peuvent nous prendre nos enfants. Vous nous privez de nos enfants et vous ne serez pas condamnés. C'est intolérable de la part de l'État. On nous demande de laisser aller ce que nous ne pouvons pas changer et avancer, de garder la tête haute. Et si le sort s'acharne sur nous, le karma fera le reste. Nous ne lâcherons pas. Je suis la voix de toutes ces mamans. Je serai là et je continuerai de me battre pour que justice soit faite, pour que Kylian et tous les autres aient une réponse, pour que nous, mamans, nous puissions continuer à avancer en paix. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice!
Qu'on te l'enseigne, ce que tu touches, tu le rends sale, t'es bancal. Tais-toi quand les gens parlent, t'es rebelle, t'es licencié. Sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. C'est sur toi que les flics s'entraînent, les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent, tu boufferas des pissenlits allongés sous des chrysanthèmes, comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête, c'est la prison ferme, c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs mille lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite, bonne conduite. Marche droit. C'est la personne que l'on déplore. D'une secte de vétards, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, il vote pour une seule tunique. Déteste ton poupou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bisec. Que ces bords dissèquent, y'aura pas de pare-feu, on t'est indirect. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30. On continue donc cette émission sur les violences d'État en vous diffusant un montage réalisé avec une vidéo faite par le Gisti TV autour de l'expulsion de la Gaîté Lyrique du 18 mars dernier. Puis, vous pourrez entendre une partie de la conférence de presse appelant à la manifestation du samedi 22 mars qui suivait l'expulsion de la Gaîté Lyrique. Et enfin, un reportage réalisé lors de la manifestation du samedi 22 mars contre le racisme et le fascisme à l'appel de la Marche des Solidarités.
Alors là, on est juste en face de la Gaîté Lyrique qui a été évacuée à l'aube ce matin. Il y a eu à plusieurs moments des nasses, des gens qui ont été poussés, des gaz, etc. Ils ont poussé des gens, y compris sur la rue, alors que la rue n'était pas coupée. Donc il y a eu des véhicules qui ont tapé des gens qui ont fait des crises d'angoisse, des problèmes respiratoires. Moi, je suis arrivée, il y avait 5 ou 6 jeunes qui étaient à terre, en grande difficulté pour respirer. La police a été extrêmement violente. Il y a encore des jeunes qui sont en train d'être évacués par les pompiers. On a eu beaucoup de mal aussi à faire venir les secours. Voilà, et puis il y a surtout des gens, beaucoup de personnes qui étaient là toute la nuit traumatisées. C'était d'une violence inouïe.
Des centaines de jeunes laissés à la rue en attente de leur rendez-vous avec le juge des enfants pour reconnaître leur minorité occupaient depuis le 13 décembre 2024 le théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. Leur moyen d'interpeller la ville de Paris, les pouvoirs publics et l'opinion sur leur situation de grande précarité en plein hiver et avec des températures glaciales. Ce sujet draine malheureusement beaucoup de désinformations et de fantasmes. Aussi choquant que cela puisse paraître, ces jeunes ne disposent pas de recours suspensif devant le juge des enfants. À la rue pendant des mois et parfois plus d'un an en attendant sa décision, il sera trop tard pour tous ceux qui deviendront majeurs entre-temps et trop tard pour ceux qui auront été victimes de la rue. N'étant pas encore reconnus mineurs, mais n'étant pas considérés comme majeurs, ils ne peuvent pas être hébergés par le 115 ou les structures d'hébergement pour adultes. Ils entrent alors dans une très grande précarité et vulnérabilité, ce que les associations, syndicats et de nombreux élus dénoncent depuis des années.
On parle quand même de jeunes isolés qui ne se demandent qu'à être pris en charge pour être scolarisés, pour pouvoir être hébergés. Et là, on se retrouve à être violentés, matraqués, gazés. C'est la honte absolue, c'est la déshumanisation. Beaucoup de gens en état de choc. Non, mais il n'y a pas de médecin là. Hein. Il faut que la vie soit Je n'ai pas les mots tellement cette situation est chaotique, honteuse, violente, y compris en termes de maintien de l'ordre. Ça a été du grand n'importe quoi. Il y a des véhicules qui ont bousculé des gens poussés dans un sens, dans l'autre, alors qu'ils ne pouvaient pas passer. Et voilà, donc là, on est en train d'évacuer les derniers blessés. Donc on reste avec les derniers blessés, là, le temps qu'ils soient évacués. Et puis ensuite, on va aller se réunir pour essayer de trouver, de réfléchir collectivement à ce qui s'est passé. Parce qu'après une nuit pareille, c'est dur, quoi.
La mairie nous a dit qu'il n'y aura pas l'expulsion sans logement. Mais aujourd'hui, nous, on voit la préfecture qui nous a fait, si demain, on va vous expulser, on voit quelque chose de son contraire. À chaque fois, on a passé 3 mois. La mairie dit c'est la préfecture, dit c'est la mairie ou c'est l'État. Nous, on s'attendait à une proposition, voilà ce que nous voulons, est-ce que vous allez accepter ou pas. Mais nous, ça nous a surpris de dire vraiment la préfecture vient aujourd'hui, on va vous expulser demain sans solution.
La demande était tout simplement d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puisque ce sont des mineurs qui a une obligation de les accueillir et que pour seule réponse, ils ont eu un arrêté préfectoral sans aucune proposition.
Le collectif des jeunes du parc de Belleville dénonce le fait que moins de 24 heures se soient écoulées entre la publication de l'arrêté, lundi 17 mars à 11 heures, et l'expulsion, qui a commencé mardi 18 mars à 5h40 du matin, s'assurant ainsi qu'aucun recours gracieux ou contentieux ne puisse réellement aboutir. Le collectif dénonce également la complicité de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a justifié cette évacuation sur France Inter et qui, contrairement à ses propos, n'a pas proposé de solution d'hébergement à Paris, avec un seul bus déployé en direction de Rouen et pour une durée de 3 semaines maximum d'hébergement. Au total, et comme indiqué d'ailleurs dans le communiqué de presse de la préfecture de police de Paris, seuls 6 jeunes ont accepté cette solution d'éloignement.
Mais il est bien évident que quand on est dans un collectif avec tout un collectif de soutien derrière, on ne part pas dans un car sans savoir où on va, et sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis on sait très bien que ces prises en charge, en général, d'éloignement, elles sont très précaires, elles sont très courtes. Et c'est juste une manière de diviser les gens, de les évacuer et puis de casser tout le collectif et tout l'accompagnement qui s'est mis en place ici à la Gaîté Lyrique avec un très grand nombre de soutiens.
On va vous envoyer dans les campagnes et nous avons nos recours ici. Et certains partent à l'école. Et on a débuté beaucoup de choses ici, on ne peut pas abandonner ça. C'est tout justement vous débarrasser de vous, peut-être nous évacuer, nous faire sortir de Paris.
Parmi ces 500 jeunes, il y en a un certain nombre qui ont saisi le juge et qui attendent tout simplement la décision de reconnaissance de minorité. Et dès qu'ils sont reconnus mineurs, ils sont pris en charge immédiatement. Donc ça veut dire que là, en fait, on remet à la rue des jeunes qui probablement demain, après-demain, seront pris en charge. C'est un grand nombre de jeunes qui sont scolarisés dans des lycées parisiens.
La ville de Paris ne nous offre pas de logements, il n'y a aucune proposition. Nous attendons nos recours. À Paris, les autres sont à Bobigny, Créteil, et comment est-ce que la ville de Paris peut déloger quelqu'un qui a ses rendez-vous à Paris? Comment il doit faire pour les rendez-vous juridiques, les rendez-vous médicaux, tout ça, il s'en sort comment?
On ne demande pas d'être, avoir quelque chose d'imaginaire, être logé, aller à l'école. La santé.
Il faut se souvenir que ces jeunes, ils sont arrivés mineurs, ils ont un parcours migratoire souvent très compliqué, très violent. Ils arrivent en général déjà très abîmés par ce voyage. Et là, aujourd'hui, après avoir mis en place tout un cadre collectif d'accueil, d'accompagnement pour les aider, ils subissent une violence d'État absolument honteuse. Et on est vraiment en état de choc ce matin. En termes de calendrier politique, Retailleau ne respecte absolument rien. On n'est même pas encore arrivé à la fin de la trêve hivernale que l'évacuation se fait et que les températures la nuit sont proches de zéro. On est à quelques jours de la très grande mobilisation qui se prépare du 22 mars dans toute la France et en particulier ici à Paris contre le racisme et manifestation qui sera ouverte justement par les jeunes de la Gaîté Lyrique. on a plus les mots face à cette violence.
Collectif des jeunes du parc de Belleville fait état de dizaines de blessés et de centaines de jeunes traumatisés, avec 46 interpellations, dont 25 jeunes mineurs isolés, ont reçu des OQTF alors qu'ils sont en attente de leur rendez-vous devant le juge des enfants, et avec une dizaine de jeunes toujours en garde à vue à mardi soir. Le collectif appelle, avec les associations et syndicats qui le soutiennent, à venir nombreuses et nombreux à la manifestation du samedi 22 mars à Paris, à 14h place de la République, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le racisme.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette conférence de presse que nous avons tant attendue, parce que ça fait quand même 8 ans, tous les 22 mars, nous manifestons contre le racisme et contre le fascisme en France et surtout à Paris. Et pour cette année 2025, ce qui est important à souligner, c'est que la marche des solidarités et les collectifs des sans-papiers sont accompagnés par plus de 120 manifestations dans plus de 120 villes et villages de France. Et cet appel a été signé par plus de 600 organisations, associations, syndicats et partis politiques. Donc, jamais vu depuis 8 ans. Et le dernier mot que je voulais attirer à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient sans papier, français, étrangers, avec ou sans papier, ils seront les bienvenus à la manifestation du 22. Aucune crainte, n'ayez aucune crainte, puisque nous avons des accords tacites avec la préfecture, que du début de la manifestation à la fin de la manifestation, que personne ne soit inquiété, que personne ne soit arrêté, parce qu'il est venu manifester contre le racisme et contre le fascisme. Merci.
Qui fait partie du collectif des jeunes du parc de Belleville, qui va intervenir à la fois dans le cadre, parce qu'ils sont partie prenante de la marche des solidarités et de la mobilisation pour le 22 mars depuis le début, et que tout le monde sait ce qui s'est passé il y a quelques jours à la Gaîté Lyrique. Pour l'instant, la banderole est encore là. Pour nous, c'est extrêmement symbolique. Non seulement c'était pratique, violent, etc., ce qui s'est passé mardi, mais le fait que ça se passe, que cette décision d'expulser les jeunes soit prise quelques jours avant les manifestations du 22 mars, qui vont être des manifestations massives, est un message explicite de la part du pouvoir sur la politique qu'ils sont en train de mener, un message explicite pour essayer de décourager, parce qu'ils sentent qu'il y a une vague qui est en train de monter, de riposte, contre les politiques racistes qu'ils sont en train de mener, une riposte contre le fait que ça ouvre la voie au courant fasciste dans ce pays. Donc il n'y a pas de hasard, et les manifestations du 22 mars seront une réponse à ce qui s'est passé, mais pas simplement une réponse par le nombre le 22 mars, mais par l'engagement de continuer de mener la lutte aux côtés des jeunes, parce que les jeunes, le message qu'ils nous ont envoyé, y compris mardi dernier, c'est qu'ils préféraient rester à la rue pour continuer de mener le combat, parce que leur revendication, c'est d'avoir des hébergements pérennes, c'est d'avoir l'accès à l'école, c'est d'avoir l'accès à la santé, etc. Et le message qui passera dans les manifestations de samedi sera le message qu'on s'engage à continuer la lutte à leur côté.
Mais bonjour, moi je suis Foussier, délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Le 18 mars est devenu une date symbolique, une date historique pour notre lutte qu'on mène depuis des années. Et on le dira haut et fort, le 18 mars, on n'oublierait pas, on ne pardonne pas et on va continuer à militer. Et ça, c'est devenu un slogan très symbolique aussi, parce que c'était une répression totale. C'était l'impérialisme du système capitaliste qui s'est prouvé le 18 mars. On n'était pas chez nous, mais nous, on les rappelle que la France et l'Afrique, c'est l'histoire qui nous lie. Et cette histoire-là, on va continuer à la réviver, on va continuer à mettre à l'évidence qu'on est chez nous. Nous ne partirons pas. Et on va continuer à militer et de tous les fronts, et Denis l'a dit. C'est seulement la lutte unitaire qu'on pourra vaincre ce système capitaliste raciste. Voilà. Je laisse la parole à ma camarade.
Bonjour. Déjà, c'est maintenant là qu'on voit et que le collectif arrive à démontrer en 18 mois de la lutte des jeunes. Les jeunes arrivent à faire découvrir au monde la position de la mairie, la position de la maire de la ville. Voilà, on a perdu l'hébergement, on n'a pas perdu la lutte parce qu'on a gagné des soutiens, on a gagné les élus, on a gagné le monde entier qui soutient contre la lutte, le racisme, l'antifascisme. Ce que je veux encore ajouter concernant ce que les collectifs subissent maintenant, déjà les jeunes sont à la rue, les jeunes sont dispersés et ce qui est plus grave, dans tous les endroits où les jeunes se situent, la police les embarque et les met au garde à vue. Il y a des jeunes qui sont au centre de rétention maintenant, il y a des jeunes qui sont en OQTF étant mineurs, mais la police les déclare comme étant majeurs. Et là, c'est ce qu'on doit déclarer et les dire très fort sur le racisme que les jeunes sont en train de subir. C'est la discrimination que les jeunes sont en train de subir. Et face au 22 mars, les jeunes ne vont pas se taire tant qu'on n'a pas arrivé au sommet de la lutte, tant qu'on n'a pas gagné pour tout le monde, pour tous les immigrants, les jeunes ne vont pas lâcher. C'est que le début de la lutte, c'est que le début de notre vie.
Il faudrait que vous sachiez les chiffres. Il y a eu plus d'une soixantaine d'arrestations des jeunes mineurs qui ont été dans deux commissariats, dans le 12e et dans le 18e. Il y a une vingtaine qui sont sortis avec des OQTF et un jeune qui a atteint sa majorité le même jour de l'évacuation, qui a eu l'OQTF accompagné de IRTF. Il y a eu des dizaines et des dizaines de blessés. Donc, il faudrait qu'on mette la lumière sur cette situation. Et l'idée de cette conférence, c'est mettre à l'avance le 22 mars. On serait là, l'appel a été répondu par les mineurs isolés. On serait là en disant à la partie socialiste de prendre sa responsabilité. Parce qu'Anne Hidalgo n'arrêtait pas de nous dire, de nous clarifier que la ville était une ville d'accueil, d'intégration, qu'on était tous les bienvenus. Mais sa démonstration le 18 mars nous a prouvé le contraire en disant aussi que la situation était tendue, elle était à l'évidence, elle était d'accord de l'évacuation sieste des mineurs isolés sans une suite d'hébergement. Et on montre aussi, donc, l'appel que moi je lance à la gauche institutionnelle, c'est de prendre sa responsabilité parce que cette lutte des mineurs isolés, c'est une lutte aussi qui les appartient. Les partis socialistes aussi doivent prendre les responsabilités de la lutte que nous on est en train de mener aujourd'hui. Parce que pendant ces une année, ces 18 mois de lutte qu'on a menée, c'était une lutte symbolique, c'est une lutte contre le racisme. Le fascisme, c'est une lutte pour l'égalité des droits, c'est une lutte pour toute l'immigration. Et on va continuer à maintenir cette flamme jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu la sage à l'homme hier, le 18, après l'évacuation, il y a eu la sage à l'homme. Par les flics, par les milices de Macron. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on dise seulement la droitisation, la fascisation qui se passe actuellement. Mais on doit pointer le doigt aussi à ce gouvernement austéritaire aussi qui soutient la montée de l'extrême droite. Donc il faudrait qu'ensemble, la lutte unitaire, qu'on fasse un blocage à la montée de l'extrême droite. Sinon, on n'aurait rien. C'est deux alternatives, et je ne cesse de le dire. On a deux alternatives, c'est créer la révolution, de stopper la montée de l'extrême droite ou on laisse l'extrême droite gouverner le pays, c'est ça. Donc la seule idée que moi j'ai, c'est la révolution pour le blocage de la montée. Merci.
Que nous soyons tous et toutes ensemble aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. Donc je lance un appel à tous les 200 villes et villages qui appellent à manifester aujourd'hui, les 600 organisations, sur la base de l'appel de la marche de solidarité, de se réunir ici le 10 avril pour prendre des perspectives nouvelles contre le racisme et contre le fascisme en France, en Europe et dans le monde entier. Et sachez que en Afrique, en Asie, en Europe, il y a des manifestations aujourd'hui contre le racisme, contre le fascisme et contre le discours raciste et haineux dans le monde entier. C'est une première étape L'intersyndicale est là, les associations sont là, les partis politiques sont là, l'intercollectif des sans-papiers sont là et ils sont autour de la marche de solidarité pour agrandir la famille. Et sachez que c'est un début et les jours et les mois à venir vont être beaucoup plus importants encore. Merci. Et pas justice! Et pas justice! Et pas justice!
Aujourd'hui, je le répète, il n'y a pas eu de sommation, c'est rien d'autre qu'une exécution. Y a, sur les cinq hommes, il y a deux tireurs. Les deux tireurs, ils ont visé les organes vitaux de mon frère. Alors leur version à eux, c'est que Angelo, il aurait pris deux coups de laser. Angelo, il aurait continué à malmener cinq hommes du GIGN avec son petit couteau. Angelo, il aurait pris une balle dans le cœur. Il était toujours debout en train de les malmener. Les deux poumons, le foie, il aurait fallu la cinquième balle dans le corps de mon frère pour l'arrêter. Et vous savez pourquoi elle est belle cette histoire-là? Parce qu'on fait partie des gens du voyage. Voilà. Voilà pourquoi elle est belle, leur version. Mais la nôtre aujourd'hui, depuis le début, notre version, la version de mon père, faut pas oublier que mon père, il a écouté le dernier souffle de son fils. Et c'est qui a fait ça? C'est un État fasciste. Non seulement le 30 mars, ils sont venus tuer mon frère, mais il y a autre chose. Le 30 mars, ils sont venus faire leur loi chez nous. Le 30 mars, ils ont appliqué pour la première fois le L435 sur la mort de mon frère. Aujourd'hui, on est le 22, ça fera 8 ans. Dans une semaine et un jour, ça fera 8 ans que mon frère est mort. Mon frère, il n'est pas mort tout seul. Mon frère, il a été exécuté. Pourquoi on nous envoie le GIGN? Parce qu'on appartient à la communauté des gens du voyage. Alors on est potentiellement armé, potentiellement dangereux. Moi, je veux dire aujourd'hui, c'est qui les gens du voyage? Que l'État ne l'oublie pas. Les gens du voyage, c'est les descendants des internés, les descendants des résistants. Ça fait 80 ans qu'on n'a pas eu de reconnaissance. On en porte encore aujourd'hui les cicatrices. L'État se sert de nous. Comme si on n'était rien. On n'est pas rien. Nos voix, ils comptent. Nos vies comptent. Au niveau de la justice, alors on s'est levé, on a demandé justice. Pourtant, il y a mort d'homme, il n'y a rien normal à demander justice. Mais nous, on l'a fait. On a eu un premier non-lieu, un non-lieu de bureau. Ça, ça a été décidé entre eux, dans leur cour, dans leur basse-cour, dans leur pièce de théâtre. On a eu un deuxième non-lieu, en appel. Pour la première fois avec l'application du L435, ce permis de tuer. On a été à la Cour de cassation, c'était notre dernier espoir d'avoir un procès public afin que les deux versions soient confrontées. Et j'estime que quand il y a mort d'homme par la force publique, un procès public doit avoir lieu. Et ça, c'est un droit. Et ça nous concerne tous, voyageurs ou pas. Députés ou pas, nous ne sommes pas entendus. En fait, on a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On a attaqué l'État français sur violation du droit à la vie, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous savez ce qui nous est tombé sur la gueule? Le 6 mars, la CEDH donne raison aux deux tueurs d'Angelo. J'ai envie de dire aujourd'hui, ouvrons les yeux. C'est pas qu'il n'y a pas de justice. Force est d'admettre et de constater, la justice a fait son travail. Et ça, faut que ça cesse. Moi, j'ai perdu mon frère, j'ai plus rien à gagner. Ne serait-ce que sauver la vie de nos enfants demain. Parce qu'il y a 8 ans, c'était Angelo. Mais tout le monde le sait, depuis le permis de tuer, combien de morts s'en suivent. Aujourd'hui, c'est pourri. Pourri est cette décision. On doit tous s'en saisir. Certes, c'est une défaite personnelle, mais je veux que tout le monde prenne conscience que la justice a fait son travail. Et où est le fasciste? Le fasciste, il est ancré dans les institutions. Parce que cette loi, c'est une loi de fasciste. Alors, j'ai pas eu l'occasion de prendre la parole sur le camion de la France insoumise. C'est bien dommage, mais qu'il l'écoute aujourd'hui. Qu'il l'écoute qu'on demande l'abrogation du L435. Qu'il l'entende. Aujourd'hui, je pense à Raymond Durem. Qu'est-ce qu'il a dit, Raymond Durem? Toute sa vie, cet homme-là, c'est un résistant. Toute sa vie, il a rappelé c'est qui gardait, c'est qui prenait ses tickets de ration. C'est la police française. Voilà où il est le fasciste.
Le fascisme, nous les voyageurs, ça fait 80 ans, plus de 80 ans qu'on le vit, sans reconnaissance. Aujourd'hui, on est là.
Merci, merci beaucoup. Justice pour Angela. Et pas justice. Et pas justice. Et pas justice. Et pas justice.
Je ne pouvais pas terminer la manif sans que tu nous dises comment tu as vécu cette manifestation. Je rappelle que tu es l'un des initiateurs historiques de cette manifestation avec la marche des solidarités. Comment tu l'as vécu? D'après toi, combien on est? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et surtout, la suite de cette mobilisation.
Bah, c'était la plus grosse et de très loin des manifestations qui ont eu lieu depuis qu'on organise des manifestations autour du 21 mars. Le chiffre à peu près qu'on va donner, c'est 100 000 personnes. Je sais que quand on est arrivé, quand la tête de cortège est arrivée place de la Bastille, pour ceux qui connaissent Paris, les derniers cortèges n'étaient pas partis de la place de la République. Donc voilà, mais c'est aussi les chiffres qui nous remontent, le nombre de villes qui ont manifesté aujourd'hui. Il y a sans doute 200 villes, villages qui ont manifesté, et les chiffres sont partout assez gros par rapport à ce qui se passait d'habitude. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est exprimé, dont on peut comprendre qu'ils mettent en rage le pouvoir, Retailleau, Darmanin, etc. Donc ça, c'est la base pour la suite. Et que là, maintenant, la question, c'est que ça continue demain, après-demain, dans les semaines qui viennent. C'est pour ça qu'avec la marche des solidarités, on appelle à une assemblée sur Paris le jeudi 10 avril à 18h30 à la Bourse du Travail. Tout le monde pour s'organiser partout, quartier après quartier, le travail après lieu de travail, dans les écoles, dans les universités, etc. Qu'il y aura un rendez-vous national, un week-end national, justement pour se coordonner, pour voir comment avancer, pour comment continuer de développer ce mouvement-là. On dit égalité pour toutes et tous, la solidarité partout et les fascistes nulle part. Donc il faut qu'il y ait tout le monde. Après, dernière chose, cette manifestation, on en avait déjà une indication avec le fait que la préfecture ait décidé d'expulser les jeunes, et violemment, les jeunes de la Gaîté Lyrique, quelques jours avant la manifestation, qui voulaient tout faire pour que ça se passe mal. Donc ils ont tout fait pour que cette manifestation se passe mal. Ils ont même chargé le cortège de tête, ils ont chargé les cortèges de sans-papiers, ils ont chargé le cortège et matraqué le cortège des jeunes, alors que la préfecture avait donné sa garantie orale qu'il n'y aura aucun souci pour les sans-papiers et pour les jeunes. C'est symbole de leur politique, et je pense qu'ils sont très énervés, qu'ils savaient que la manifestation allait être très forte, et ils veulent démoraliser les gens. Je pense que la réponse qu'il faut donner, c'est qu'on soit encore plus nombreux à s'organiser partout, quartier, c'est pour ça, quartier après quartier, école après école, lieu de travail après lieu de travail, qu'on se coordonne pour construire la riposte dont on parle, parce que là, ce qu'on a démontré, c'est qu'on veut nous faire croire que dans ce pays, il n'y a que des racistes et que des fascistes, que les politiques que met en œuvre Retailleau et Darmanin, ce serait pour plaire à l'opinion publique. Non, surtout quand il s'agit d'aller dans la rue, on est capable de mettre des centaines de milliers de gens dans la rue. Ça, les racistes et les fascistes, pour l'instant, ne sont pas capables de faire ça. Donc c'est une autre réalité, et ce mouvement-là, il doit être de plus en plus fort, de plus en plus visible, et réussir à gagner des choses maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'organise.
Tu peux nous donner des nouvelles des gosses de la Gaîté Lyrique? Comment ils vont? Où est-ce qu'ils sont? Quelle suite de mobilisation pour eux?
Là, ils sont en train de se réorganiser eux-mêmes, déjà, eux-mêmes et elles-mêmes, de reprendre maintenant, ils sont à la rue. C'est un symbole de détermination, de combat, etc. Ils ont refusé ce chantage honteux de la préfecture qui est allé leur proposer un par un, juste au moment de l'expulsion, de partir à Rouen quelques semaines, alors que tous leurs papiers, tous leurs recours, tous leurs processus sont sur Paris. Ils ont décidé que non, ils résistaient, ils ont résisté à l'expulsion. Ils ont décidé qu'ils retournaient à la rue pour s'organiser, pour se battre, pour gagner leurs droits. Leur recours de minorité, l'accès à l'école, l'accès à la santé, etc. Donc là, ils ont subi un gros coup, c'était très violent. Ils ont été dispersés, ils ont été pourchassés dans Paris toute la journée de mardi. Il y en a qui ont été mis en garde à vue, tout le monde est sorti. Il y a des OQTF, bon, il y a tout ça qui est suivi. Mais surtout, ils sont en train de s'organiser pour continuer le combat. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un mouvement qui soit encore plus gros autour d'eux pour essayer à les soutenir et puis les faire gagner, quoi. Il y avait 450 jeunes mineurs qui étaient à la Gaîté Lyrique, ça veut dire qu'ils étaient à la rue sinon. Eux, leur truc, c'était pas d'être logés à la Gaîté Lyrique. C'était pas ça leur objectif. Leur objectif, c'était pas un confort d'être à la Gaîté Lyrique, c'était des conditions. Eux, ils rêvaient qu'une seule chose, c'était de partir de la Gaîté Lyrique pour être hébergés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord qu'ils étaient à la rue et que la mairie leur avait donné aucune solution. Et que pendant les 3 mois où ça a duré, la mairie n'a donné aucune solution aux jeunes qui occupaient la Gaîté Lyrique. Cerise sur le gâteau, c'est la mairie qui a lancé la procédure d'expulsion, qui a permis à la préfecture d'intervenir. Et non seulement ça, mais ensuite Anne Hidalgo a fait une déclaration pour dire qu'elle soutenait l'intervention de la préfecture. Alors voilà, oui, il n'y a pas d'antiracisme, il n'y a que des preuves de lutte contre le racisme. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a que des preuves de solidarité. Donc la mairie de Paris, elle a été complice de fait de la préfecture de police et du gouvernement. Voilà, c'est tout.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.